Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, membres de la presse, auditeurs, auditrices de Radio Okapi, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Au sommaire de cette conférence de presse des Nations Unies, activité des composantes de la MONUSCO avec notamment le rapport mensuel sur la situation des droits de l'homme en RDC, activité de l'équipe pays dans ses deux piliers, développement humanitaire avec notamment la présentation Dorothée Clerc et Sylvestre Toumba Moudigayi, et puis enfin la situation militaire avec le porte-parole militaire de la MONUSCO. Invité de cette conférence de presse, tout d'abord M. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Son adjoint, le général Abdallah Wafi, chef de la mission des Nations Unies à l'est de la RDC, donc des opérations à l'est. Et puis nous avons avec nous également Scott Campbell, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui va donc nous donner quelques éléments sur ce rapport mensuel sur la situation des droits de l'homme en RDC. Et puis nous aurons, je crois que c'est tout pour les invités. Voilà, nous commençons donc cette conférence de presse tout de suite avec les activités des composantes de la MONUSCO. L'actualité de la MONUSCO cette semaine est dominée par la présentation du rapport relatif à la situation des droits de l'homme en RDC. Ce rapport procède à des analyses et tendances relatives à la situation des droits de l'homme. En effet, dans le cadre de son mandat, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo assure une surveillance étroite de la situation des droits de l'homme à travers le territoire congolais. Des informations sur ces tendances sont régulièrement partagées avec les autorités congolaises afin qu'elles prennent des actions nécessaires en vue de traduire en justice les auteurs des violations des droits de l'homme documentées par le bureau conjoint, qui sont donc présentées de manière mensuelle à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Monsieur Scott Campbell, directeur de ce bureau conjoint, est avec nous pour nous présenter ce rapport mensuel sur la situation des droits de l'homme en RDC. Bonjour Scott.
Bonjour beaucoup. Bonjour Jacques.
Alors, quelques détails sur ce rapport mensuel que vous présentez chaque mois. Quelles sont les grandes lignes de ce rapport?
Voilà, juste depuis le début de cette année, nous avons commencé avec cette pratique de partager avec vous, la presse, juste les grandes lignes des rapports mensuels que nous partageons avec les autorités congolaises pour un suivi. Donc, au cours du mois de mars 2014, notre bureau a enregistré 189 violations de droits de l'homme, tous confondus, sur le territoire de la RDC, ce qui représente une légère hausse par rapport au mois de février 2014, au cours duquel 183 violations de droits de l'homme avaient été enregistrées par notre bureau. Donc, presque le même chiffre, mais une très légère hausse. Le nombre de victimes qui ont résulté de ces violations a, par contre, connu une baisse d'environ 68% au cours du mois de mars. Les types de violations, donc c'est-à-dire il y a moins de personnes, moins de victimes concernées par chaque cas de violation que nous avons documenté. Les types de violations des droits de l'homme les plus rapportés ont été les atteintes au droit à l'intégrité physique, suivies par les atteintes au droit à la liberté et sécurité de la personne, les atteintes au droit à la propriété et les atteintes au droit à la vie. Les provinces les plus touchées, donc sur le plan géographique, restent les provinces de l'Est de la RDC, à savoir la province du Nord-Kivu, suivie par la province orientale et la province du Sud-Kivu. Il convient de signaler que dans les provinces de l'Ouest du pays, notre bureau a enregistré un peu plus de 50 violations de droits de l'homme et ont fait environ 80 victimes, ce qui représente une baisse par rapport au nombre de violations des droits de l'homme et de victimes de ces violations enregistrées dans cette partie ouest du territoire de la RDC au cours du mois précédent. L'ensemble des agents étatiques auraient été responsables de près de 52% du nombre total des violations de droits de l'homme enregistrées par notre bureau, alors que les combattants des groupes armés auraient été responsables, quant à eux, de près de 48% du nombre total de violations de droits de l'homme enregistrées. Contrairement au mois de février 2014, mais conformément au mois antérieur, les militaires de les forces armées congolaises de la RDC à elles seules auraient été responsables du plus grand nombre de violations de droits de l'homme enregistrées par notre bureau au cours du mois de mars. Les combattants du groupe Maïmaï, tous les groupes Maïmaï confondus, seraient par contre les principaux auteurs des violations des droits de l'homme commises par les groupes armés, les groupes armés, suivis par les combattants de Force démocratique de libération de Rwanda, les FDLR, et les combattants de LRA. Notre bureau a continué à noter avec préoccupation en mars 2014 des atteintes aux droits des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des opposants politiques. Notre bureau a notamment enregistré 6 atteintes aux droits à la liberté et sécurité de la personne, donc des arrestations et détentions arbitraires ou illégales, les menaces d'arrestation et enlèvement commises contre 4 activistes des droits de l'homme et un journaliste, ainsi qu'une atteinte au droit à l'intégrité physique contre un défenseur des droits de l'homme. Au cours du mois passé, le mois de mars, selon les informations mises à notre disposition, au moins 3 agents de la police nationale congolaise et 23 militaires des FARDC, dont un militaire de la garde républicaine, ainsi que 5 combattants Mai Mai, ont été condamnés pour des actes constituant des violations des droits de l'homme. Donc, juste pour vous donner les grandes lignes sur les actions prises par la justice pour traduire en justice les responsables des violations pendant les mois antérieurs. Je vous remercie.
Merci à Scott Campbell. Nous poursuivons cette conférence de presse avec les informations relatives à la protection de l'enfance. Du 14 au 17 avril, la section protection de l'enfance a réuni des éléments de preuve au sujet de 30 enfants qui avaient été associés à des groupes armés. Le recrutement de ces enfants est attribuable principalement aux Mai Mai Kata Katanga, suivis des FRPI, des Nyatura et des APCLS. Ils avaient été recrutés entre janvier 2011 et décembre 2013 au Katanga, en province orientale, au Nord Kivu, au Sud Kivu, alors qu'ils étaient âgés de 10 à 16 ans. 11 d'entre eux avaient été recrutés alors qu'ils avaient moins de 15 ans, ce qui constitue un crime de guerre. Ils étaient utilisés comme combattants, escortes, cuisiniers, travailleurs domestiques et porteurs. Et puis la MONUSCO est préoccupée par de graves violations commises à l'encontre de la population de Rutshuru par un gang composé de 7 hommes armés dirigé par Fidel Bangawabo, un ex-membre du mouvement populaire d'autodéfense MPA. Ce gang est responsable du meurtre d'un enfant et de la mutilation à la machette de 2 autres enfants. Des membres de ce groupe ont commis 42 cas de viol, dont 27 à l'encontre de filles âgées de 12 ans. Ces violations ont été commises entre avril 2013 et avril 2014 dans plusieurs villages de la région dans le territoire de Rutshuru. La MONUSCO engage les autorités compétentes à prendre des mesures appropriées pour neutraliser ce gang afin de protéger la population. Et puis la police de la MONUSCO, la session de formation des formateurs au profit de 55 apprenants, dont 3 femmes, s'est clôturée le 21 avril dernier au centre d'instruction de la police nationale congolaise PNC de Mugunga à Goma. Financé par l'Organisation internationale des migrations, les cours de cette formation ont été conjointement dispensés par les formateurs de la police MONUSCO et de la PNC. Toujours au centre d'instruction de Mugunga à Goma, la police MONUSCO a participé au lancement officiel des formations spécialisées en police de mine, police de proximité et lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Donc voilà tout pour les activités des composantes de la MONUSCO. La parole est à présent à l'équipe pays. Et tout d'abord, le volet développement avec Dorothée Clerc. Dorothée, bonjour.
Bonjour, merci, bonjour à tous. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, a organisé 2 activités à Lubumbashi la semaine dernière, ainsi que cette semaine, dans le cadre de l'appui qu'il apporte aux institutions. Du 16 au 18 avril, un séminaire a été organisé sur la légistique, donc la rédaction des lois et édits de qualité, à l'intention des membres de l'exécutif provincial du Katanga. Des ministres et leurs conseillers, des députés provinciaux, le personnel administratif de l'Assemblée provinciale, quelques chefs de division, ainsi que les acteurs de la société civile ont participé à ce séminaire. L'objectif étant de permettre à ces différents acteurs d'avoir des connaissances de base sur la rédaction des textes de loi de qualité répondant aux standards internationaux et respectant la Constitution. Leurs capacités renforcées dans ce domaine permettront d'accroître la production législative de la province. Autre activité du PNUD, lundi et mardi, s'est tenu un atelier d'évaluation de l'application de la loi portant protection de l'enfance et élaboration des textes provinciaux avec le ministère provincial des sports, des loisirs, du genre, de la femme, des enfants, de la culture et des arts. Cet atelier qui a réuni les membres du cabinet de ce ministère ainsi que les acteurs de la société civile, membres des groupes du travail thématique, a pour objectif d'aider la province à se doter d'un texte portant mesure d'application de la loi sur la protection de l'enfant prise au niveau national. Cet atelier a été organisé avec la collaboration de l'UNICEF Katanga. Une information à présent de l'UNESCO au sujet du projet Une meilleure éducation pour l'essor de l'Afrique, aussi appelé projet BER. Un atelier commence en effet aujourd'hui. Il portera sur l'élaboration des modules de formation technique et professionnelle pour des cycles de 2 ans en construction métallique et en électricité de bâtiments. L'atelier organisé par l'UNESCO durera 12 jours. Ces travaux regrouperont les inspecteurs d'enseignement, les membres de la direction des programmes et matériels didactiques du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le PSP, ainsi que des professionnels des entreprises des secteurs électricité, bâtiment et construction. Le projet BER est financé par la République de Corée. Il vise à renforcer les capacités de 2 établissements de formation professionnelle de Kinshasa, l'Institut technique agro-vivrière de Nsélé qui intervient dans le domaine de l'agriculture et l'Institut technique professionnel Bumbu pour les travaux publics du bâtiment. L'UNESCO toujours, concernant le projet éducation en urgence qu'elle met en œuvre avec l'appui du Japon, l'UNESCO vient de finaliser les outils pédagogiques pour l'éducation à la paix dans la province du Nord Kivu. Les outils élaborés seront présentés à Goma au cours d'un atelier de validation qui se tiendra dans les tout prochains jours. Le projet éducation en urgence, en situation post-conflit, organise également la réhabilitation de salles de classe dans les écoles situées aux alentours des camps de Mugunga 3, de Kanyaruchinya et du Lac Vert, ainsi que l'équipement de salles de classe en banc pupitre et la fourniture de manuels scolaires aux écoles ciblées. Le projet s'intéresse également à la formation des enseignants et du personnel de la division provinciale de l'éducation qui assureront sur le terrain le suivi de la mise en œuvre du volet éducation à la paix du projet. Merci.
Merci Dorothée. Nous passons tout de suite au volet humanitaire de l'équipe pays avec la présentation Sylvestre Toumba Moudigaï. Sylvestre, bonjour.
Bonjour Charles, bonjour chers amis de la presse à Kinshasa à Goma, bonjour aux auditeurs de Radio Capi. Le programme alimentaire mondial distribue depuis la semaine dernière des vivres à plus de 71 000 personnes déplacées internes dans des sites au nord Kivu. Il s'agit des personnes identifiées comme très vulnérables à la suite d'une récente enquête de vulnérabilité sur la sécurité alimentaire dans les sites des déplacés. Selon l'enquête, 27% des personnes déplacées dans les 33 sites évalués présentent une vulnérabilité alimentaire élevée. Cette enquête a été initiée afin de trouver de nouvelles stratégies d'assistance alimentaire dans les sites de déplacés dans un contexte où les ressources financières se font de plus en plus rares et où l'assistance alimentaire fournie depuis plus de 5 ans sous forme de distribution générale de vivres n'apporte pas de solution durable aux besoins réels des déplacés de longue durée. Le PAM et ses partenaires prévoient de distribuer au total 200 tonnes de vivres aux personnes déplacées vulnérables sur les 33 sites sous forme de démi-ration mensuelle pendant une période de 3 mois. À la suite d'une certaine amélioration de la situation sécuritaire dans le territoire de Beni, de retour des populations a été signalé sur l'axe Mba ou Kamangu. Selon les autorités locales, 60% des habitants de la région seraient déjà revenus, mais des cas d'enlèvement et d'assassinats des civils fin mars, début avril ont poussé certaines personnes retournées à se déplacer de nouveau. Selon un partenaire humanitaire sur place, sur les 428 ménages revenus sur l'axe, environ donc 2150 personnes, sur les 428 ménages retournés sur cet axe dans la zone, depuis le début du mois de mars, 320 ménages viennent de repartir vers Mbao et Oicha à cause de l'insécurité des opérations militaires en cours contre l'ADF. De nombreux rapports font état de graves exactions commises par les forces et groupes armés à l'encontre des populations civiles. Le Katanga est frappé par des inondations. À Kalemie, quelques 5000 personnes sont sans abri à la suite des pluies qui se sont abattues ce week-end dans la ville. Des quartiers entiers ont été inondés, le quartier Kamukolobondo, où se trouve la station de pompage d'eau de la Régie des Eaux, le quartier de la Paix, où se trouve notamment le bureau d'Ocha et de la FAO, ainsi que le camp militaire Maïto, ont été le plus affectés par des inondations. Les fosses septiques ont été inondées, il y a lieu de craindre des maladies d'origine hydrique. Plusieurs habitations et infrastructures publiques ont été détruites. Les personnes se retrouvent pour la plupart dans des familles d'accueil. Une mission humanitaire d'évaluation est sur le terrain aujourd'hui pour déterminer les besoins de ces personnes. Une autre mission humanitaire est aujourd'hui à Bukama, dans la province du Katanga. 14 000 personnes sont sans abri dans les territoires de Bukama et de Mitwaba depuis les pluies torrentielles du 8 avril. Une mission humanitaire est aussi envisagée pour Mitwaba. Ces situations rappellent la nécessité d'avoir dans un bref délai un plan de préparation et des réponses aux inondations et autres catastrophes naturelles dans la province du Katanga.
Sylvestre, merci. À présent, la parole est au colonel Félix Prosper Basse pour un survol de l'évolution de la situation militaire de cette dernière semaine. Colonel, bonjour.
Bonjour Charles et bonjour à tous. Survol, oui, mais survol très rapide. En commençant par l'Ouest de la République démocratique du Congo, où la situation a été calme durant la semaine écoulée. En province orientale, la pression militaire exercée par les opérations conjointes MONUSCO et FRDC contre les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur se poursuit dans les districts des Hauts et Bas-Ouélé. En Ituri, la semaine a été marquée par la poursuite des opérations menées par l'armée gouvernementale, soutenue par la force de la MONUSCO, contre les miliciens du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri FRPI au sud du territoire d'Irougou. Après la mort de leur chef, le 18 avril 2014, les éléments du groupe Maïmaï Morgan ont attaqué deux villages dénommés 5 et 12 km situés aux environs de la localité de Salaté en territoire de Mambasa, pillés de l'or et des objets de valeur appartenant aux populations locales. Quatre femmes ont également été violées et des hommes kidnappés. Cet incident a provoqué des mouvements de population en provenance des localités de Badegaido, Salaté, Zalanabangu. À cet effet, un poste opérationnel a été déployé à Epoulou, situé respectivement à 167 et 70 km à l'ouest de Komanda et de Mambasa, dans le but de protéger les populations civiles dans la région. Au nord Kivu, en territoire de Beni, dans le cadre de l'opération Sukola 1, l'armée congolaise, soutenue par la force de la MONUSCO, consolide avec succès les positions récemment conquises et poursuit les opérations de bouclage et de ratissage des zones jadis sous contrôle des rebelles de l'Alliance des Forces démocratiques, ADF. Du 16 au 18 avril 2014, le général de corps d'armée Carlos Alberto dos Santos Cruz a effectué une visite opérationnelle dans le territoire de Beni pour évaluer la situation sécuritaire prévalant dans la région de Mavivi et des zones environnantes, mais également inspecter les travaux de réhabilitation de l'axe Mbao-Kamango confié à la compagnie du génie népalais de la force de la MONUSCO. Le 20 avril, les casques bleus de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO déployés au poste opérationnel de Kichanga ont assuré la protection de 137 individus fuyant les accrochages opposant les FRDC aux éléments de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS dans la région. Un major de ce groupe armé a été capturé au cours des combats au village Muhanga. Au sud Kivu, l'environnement sécuritaire demeure sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises déployées dans la province. C'est ainsi que le 18 avril 2014, un élément Maïmaï Nyatura a été tué, un autre appréhendé et deux armes AK-47 récupérées au cours d'accrochages avec les FRDC à Nombi. Le 19 avril, deux éléments FDLR se sont rendus avec trois membres de leur famille au poste opérationnel de la force de la MONUSCO de Minova en territoire de Calais et remis à la section DD3R pour leur prise en compte. Au Katanga, la situation sécuritaire dans les localités situées au nord de la province est tendue du fait des activités négatives des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. En effet, pendant la période sous examen, des combattants FDLR armés de fusils AK-47 ont attaqué et pillé les zones minières de Mugungu et Kinyama, situées à 65 km au sud-est de Bendera, puis kidnappé 27 mineurs basés au site minier de Milongwe. Par ailleurs, la recrudescence des conflits entre les Pygmées et les Bantous dans le territoire de Nyuzu provoque des déplacements massifs de civils Bantous dans la région, car des miliciens Pygmées ont attaqué les villages Kiadia et Mbayo, situés respectivement à 190 et 112 km au nord-est de la ville de Manono, dans le groupement de Nsega Chimbu, et blessé 4 personnes. Trois assaillants ont été appréhendés par les FRDC déployés dans le secteur. Les miliciens Maïmaï Bakata Katanga, aux ordres du chef rebelle Mandraka Kilele, ont attaqué le village Moussecha, situé à 150 km au sud-est de la ville de Pueto, pillé et incendié approximativement 100 maisons. Le 17 avril, Trois éléments armés d'AK-47 ont attaqué la procure de la mission catholique à Kongolo et kidnappé deux prêtres qui seront retrouvés un peu plus tard, abandonnés à 1 kilomètre de la procure sur l'axe Kongolo-Kalemi. Le secteur de Kanta, à lui, est calme. Et enfin, concernant les statistiques de nos patrouilles, nous en avons mené 1359 armées, dont 398 nocturnes, et fourni 39 escortes, pendant que nos observateurs militaires ont, quant à eux, effectué 43 autres patrouilles. Je vous remercie de votre attention.
Colonel, merci. Avant de laisser la parole à Martin Kobler, nous allons demander au général Abdallah Wafi, qui est donc sur notre table ici avec nous. Général Abdallah Wafi est représentant spécial adjoint du secrétaire des Nations Unies, chargé des opérations de l'Est. Il était récemment à Bounia. Que peut-on retenir de ce voyage à Bounia, général Wafi?
Merci, mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais très rapidement vous donner notre point de vue en ce qui concerne les malheureux événements qui ont conduit à la mort de Paul Sadala alias Morgan la semaine dernière dans la localité de Molokai. Nous avons été approché par les autorités congolaises pour que la MONUSCO puisse appuyer l'opération de désarmement de Paul Sadala et 42 de ses éléments qui s'étaient rendus au FRDC dans la localité de Badangaido. Donc, compte tenu de l'importance de l'événement, comme vous le savez, Paul Sadala est un chef milicien, un des deux les plus actifs dans la province, dans le district de l'Ituri. Et conformément à notre mandat, nous avons estimé qu'il fallait soutenir cette opération. À la demande du représentant spécial, j'ai été moi-même le dimanche à Bounia pour pouvoir coordonner les opérations avec les FARDC et les responsables locaux de la MONUSCO. Alors, Paul Sadala alias Morgan s'est effectivement rendu le vendredi à Badangaido à la tête de 42 de ses éléments. Lorsque nous sommes arrivés, les contacts que nous avons pris avec les éléments des FARDC et notamment le chef des opérations des FARDC dans l'Ituri m'ont fait comprendre qu'il souhaitait garder le contrôle et la maîtrise de l'opération parce que c'était eux qui étaient en contact avec, à travers des notabilités locales, pour pouvoir les convaincre de se rendre. Et donc, il nous a simplement été demandé d'apporter un appui logistique pour pouvoir faciliter la reddition de ces gens. Suite à cette demande, j'ai mobilisé 3 hélicoptères sur l'aéroport de Bounia et un avion C-130 militaire pour pouvoir transporter les rendus à partir de Bounia sur Kinshasa. Le lundi matin, Morgan et les éléments des FARDC qui l'escortaient ont donc pris la destination de Mambasa où nous devons faire jonction pour pouvoir les mettre dans les hélicoptères de la MONUSCO et les apporter. Pour votre compréhension, l'itinéraire routier, c'est Badangaido, Molokai, Epulu, Mambasa, Komanda et Bounia. En cours de route, pour des raisons non encore élucidées, il y a eu des affrontements entre les éléments des FARDC, conduits par le général Fall Sikabwe, le chef des opérations militaires FARDC dans l'Ituri, et, comme vous le savez, avec un bilan tragique très lourd, près de 10 tués, dont Morgan qui succombera plus tard des suites de ses blessures. Les 8 éléments qui étaient avec Morgan ont été, au dire du chef des opérations militaires des FARDC, tous tués. Je dois rappeler que des éléments à notre possession, au moment de ce clash, il y avait près de 100 éléments des FARDC contre Morgan et 8 de ses éléments. Maintenant, quand Morgan est arrivé à notre base opérationnelle de Komanda, près de 4 heures après les affrontements, il avait eu tout le temps de se vider de son sang. C'est donc un Morgan presque mourant qui a été présenté à la base opérationnelle de la MONUSCO à Komanda. Naturellement, lorsque nous avons appris l'incident, j'ai encore déployé un hélicoptère médicalisé avec du personnel d'urgence à bord qui a atterri pour prendre en charge Morgan. Malgré tous les efforts qu'ils ont déployés pour tenter de le réanimer, il a succombé et nous avons ensuite transporté son corps à Bounia, mais décédé. Voilà très rapidement ce que je peux vous dire pour les faits tels qu'ils se sont déroulés. Naturellement, comme vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire et il est extrêmement important que nous attendions les investigations de la justice militaire pour pouvoir situer les responsabilités, déterminer les circonstances exactes de ce qui s'est produit et ensuite, certainement, une enquête aussi de commandement militaire pour voir comment une simple opération de police qui devrait conduire des éléments qui s'étaient rendus à Bounia a tourné à cette tragédie. Voilà ce que je peux vous dire sur cette affaire. Si vous avez des questions, je serai heureux d'apporter les éléments, en tout cas à partir de ce que je sais de ces événements. Je vous remercie.
Merci, Général Wafi. Nous allons, comme je le promettais, finir avec donc une présentation de Martin Kobler, représentant spécial de Ban Ki-moon à RDC, chef de la MONUSCO. Monsieur Martin Kobler, bonjour. La parole est à vous.
Voilà, bonjour Charles, chères auditrices, auditeurs de Radio Capi, chers membres de la presse à Goma et à Issy. Après ces survols droits de l'homme, militaire, situation à Bounia, on n'a presque rien à ajouter. Ce sont des survols, ont été des survols en vitesse de jet. Un autre survol sur les sujets civils. J'ai continué moi-même mes consultations pour informer le gouvernement, mais aussi le chef de l'État, sur la résolution, la nouvelle résolution et les nouveaux éléments de la résolution. Mes consultations c'était avec le chef de l'État, avec le Premier ministre, avec le ministre des Affaires étrangères, mais aussi avec l'abbé Malumalu sur les élections. Nous avons aussi continuer de adresser le problème de la mise en œuvre des déclarations de Nairobi. Nous avons pris note et félicitons le gouvernement d'avoir commencé le processus d'amnesty maintenant de 50 personnes. On a 15 ex-combattants du M23 parmi ces 50 membres. C'est très important aussi de mettre en œuvre maintenant les déclarations de Nairobi et de repatrier les ex-membres du M23 ici dans le pays. Le porte-parole militaire vous a informé sur les actions contre les ADF. Je félicite les FRDC pour ces combats très très durs et très très courageux contre les ADF. C'est très important d'avoir des progrès. Il ne faut pas oublier les plans contre des combats contre les FDLR. C'est aussi très nécessaire. Les plans sont prêts. La planification est prête entre la MONUSCO et les FRDC. Nous sommes toujours en contact avec les FRDC sur ça. Il ne faut pas oublier les combats contre les FDLR. Moi, je vais me déplacer demain à Bukavu aussi pour être informé sur les plans entre nous, la MONUSCO, les FRDC, notre contingent pakistanais là, dans le combat contre les FNL et les FDLR à Sud Kivu. On se concentre très souvent seulement au Nord Kivu parce que ce sont les problèmes qui sont très urgents, mais il ne faut pas oublier les autres territoires comme Sud Kivu, Katanga qui sont affectés par les conflits armés et ont des territoires qui sont occupés par des groupes armés. Nous avons un autre événement la semaine dernière que je condamne fermement, c'est l'attentat contre Emmanuel de Mérode, le chef du parc de Virunga. Les circonstances ne sont pas très claires, mais nous avons assisté avec la France aussi, avec nos médecins, lors de l'évacuer et de le traiter médicalement. C'est une attaque que je condamne fermement. Parce que Emmanuel de Mérode, c'est le chef du parc de Virunga, le chef du ICCN par là, c'est le chef de 200 rangers qui protègent le parc Virunga contre les groupes armés et aussi des groupes, parfois des groupes des intérêts économiques. C'est totalement inacceptable de cibler un homme. homme comme Emmanuel de Mérot ici. Je suis très heureux, il est hors du danger de vie. J'ai continué également mes entretiens avec la communauté de développement, en particulier avec aussi les représentants du secteur privé. Parce que je vous ai expliqué auparavant la nouvelle dynamique de la force, mais aussi la nouvelle dynamique qui doit suivre. C'est la nouvelle dynamique dans nos efforts de développement, en particulier l'Est du pays. Je suis convaincu que ça ne marche pas sans le secteur privé. C'est pourquoi j'ai rencontré dans les semaines dernières, aussi hier, dans les derniers jours, les membres du secteur privé ici. Je suis convaincu que le vrai développement dans les minerais, mais aussi dans l'agriculture, vient aussi du secteur privé, sans négligeant les autres pistes que nous développons. C'est important de créer l'infrastructure, de promouvoir l'éducation. Ça, les donateurs et l'État doivent faire. Mais le secteur privé, ils ont la capacité, ils ont le potentiel de développer, en particulier à l'est du pays, l'économie. Il faut créer en particulier l'emploi pour la jeunesse dans ce pays. Pas seulement à l'Est, partout. On a 50% de la population, de votre population, qui sont au-dessous de 18 ans. On a 75% au-dessous de 30 ans. Il faut encourager le secteur privé de créer l'emploi dans les mines, mais aussi les autres terrains de l'investissement privé. Je crois aussi, nous, de la MONUSCO, de l'équipe pays, nous devons encourager d'améliorer le cadre pour les investissements privés dans ce pays, parce que ça, c'est le développement. Merci pour la chance pour ce survol brièvement. Pour ajouter, on a aussi, en ce qui concerne le secteur privé, on a Mary Robinson et l'envoyé spécial, l'équipe de l'envoyé spécial, qui vont arranger des conférences sur le secteur privé. Maintenant, dans les mois qui suivent, au mois de mai, au mois de juin, afin vraiment d'encourager le gouvernement, les gouvernements de la région, mais aussi le secteur privé, de se développer dans le pays. Merci.